Europe can only be united.
7 mai 1948. Winston Churchill prononce un discours en faveur des États-Unis d'Europe au Congrès pour l'Europe à La Hague.
Les drapeaux s'alignent fraternellement unis 3 mois plus tard aux premières réunions de Strasbourg. Les masses.
1er janvier 1973. Au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur adhère à la communauté européenne.
Of the membership of our country in the European Economic Community.
5 juin 1975, le Parti travailliste est au pouvoir et organise un référendum pour donner la possibilité aux citoyens de choisir de rester ou non. Leave or remain. Déjà. Margaret Thatcher, alors leader du Parti conservateur et dans l'opposition, incite ses concitoyens à voter en faveur du oui.
And vote yes, so that the question is over once and for all. We are really in Europe and ready to go ahead.
The British people, in clear and unmistakable terms, have made their historic decision that Britain shall remain a member of the European Community.
Et les électeurs anglais, écossais, gallois et irlandais votent à 67% en faveur du maintien du Royaume-Uni dans la communauté européenne et répondent à la demande de Margaret Thatcher, c'est tranché une bonne fois pour toutes. Jean Lambert a 25 ans. Alors jeune membre du Parti vert anglais, elle se souvient du référendum, des discussions, et d'avoir voté non à l'adhésion de l'Angleterre au marché commun.
I mean, that really was, from what I remember, something, you know, a real big political debate. I was living in a...
D'après mes souvenirs, c'était vraiment un grand débat politique. Je vivais alors au 20e étage d'une tour. Je me souviens d'avoir discuté avec des voisins dans l'ascenseur pour leur demander comment ils envisageaient de voter. Pourquoi pensez-vous voter de cette manière? C'était un sujet dont les gens parlaient vraiment et dont on pouvait parler à des étrangers. Ce qui, si vous connaissez le Royaume-Uni et Londres, est très surprenant car on ne parle pas volontiers à des étrangers. Donc c'était un sujet important. Et je dois dire qu'à l'époque, j'ai voté contre. J'ai voté pour que nous ne restions pas dans l'Union européenne. Parce qu'à l'époque, les parlementaires n'étaient pas élus. Il était très difficile de voir quelle était la substance démocratique de ce grand projet. En fait, il était difficile de voir quel serait le bénéfice pour des gens ordinaires. On pouvait voir ce qu'il en résulterait pour les entreprises.
Qui connaît les élections européennes? Synonyme d'abstention record, de campagne électorale bâclée et de désintérêt médiatique, les élections européennes sont aujourd'hui l'unique et la plus grande élection supranationale au suffrage universel direct jamais organisée au monde. Je vous emmène dans la mémoire de ces élections européennes. 9 épisodes pour 9 élections. Chronique intime et singulière des évolutions de notre société européenne. Je m'appelle Laetitia Chaban et vous écoutez Europe et Sentiments. Élections européennes, une histoire sous les radars. Épisode 5. 1999, une élection sans électeurs où l'Europe perd à tous les coups. Le contexte, 5e élection, 15 pays, 3 nouveaux arrivants, Autriche, Suède et Finlande. Taux de participation, 49,51%.
Notre rubrique Europe du mardi est consacrée à l'abstention des élections européennes. 53% en France, 43% dans...
L'histoire commence le dimanche 13 juin 1999.
And down here on the floor, below the Eurocafe up there, we'll be analyzing...
Sur le plateau de la BBC, se rejoignent personnalités politiques et citoyens pour une soirée dédiée aux résultats des élections européennes.
Remember, in Britain, 3 out of 4 of us didn't actually go to the polls. The lowest turnout.
Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que les Britanniques ne sont pas allés voter ce jeudi 10 juin, date à laquelle se tenaient les élections. 76% d'abstention. Le taux de participation le plus faible jamais enregistré. Alors, quel message ont voulu faire passer les Britanniques ce jour-là? Pour bien comprendre cette élection, il faut avoir en tête la relation singulière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Depuis le référendum de 1975, qui devait marquer l'engagement de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne, l'appartenance du Royaume-Uni à l'Europe suscite toujours autant de débats au sein de la société. Le terme d'eurosceptique est d'ailleurs inventé à cette époque pour décrire l'attitude réticente de la très conservatrice Margaret Thatcher, alors Première ministre, face aux exigences de Bruxelles. La relation est houleuse et marquée par la phrase désormais célèbre « I want my money back ». Quatorze ans plus tard, nous voilà ce fameux 10 juin 1999. Pour essayer de comprendre cette abstention massive, je vous propose de replonger dans l'actualité de cette année. Tony Blair, travailliste, est élu Premier ministre en 1997. Depuis son arrivée au pouvoir, il a engagé une réforme des institutions pour, je cite, « nettoyer la politique » et a instauré un nouveau système électoral intégrant une plus grande part de proportionnel. À cette époque, il porte un discours pro-européen.
Bonsoir, depuis le 1er janvier, la France n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Le 1er janvier, l'euro est arrivé, une nouvelle monnaie pour les 290 millions d'Européens vivant dans les 11 pays de la zone euro. Certes, ce n'est qu'en 2002 que nous aurons des pièces et des billets en euros, mais dès aujourd'hui, cette nouvelle monnaie existe. Et les
dans 11 États européens, c'est le lancement officiel, le 1er janvier 1999, de l'euro pour les entreprises. Et le début du double affichage chez les commerçants. Les Anglais ne font pas partie des pays pionniers. Mais Tony Blair a déjà annoncé un référendum pour choisir ou non d'y adhérer.
Les membres de la Commission ont décidé ce soir à l'unanimité de remettre collectivement leur démission. La Commission a...
Quelques mois plus tard, le 15 mars, c'est aussi la démission en masse des représentants de la Commission européenne dirigée par Jacques Santer, pour cause d'accusations de fraude fiscale et de mauvaise gestion. C'est la première fois que le Parlement européen ose ainsi s'attaquer de front à la Commission et s'identifie comme un véritable contre-pouvoir. Le 1er mai, le traité d'Amsterdam entre en vigueur, donnant plus de pouvoir au Parlement, notamment dans la nomination du président de la Commission européenne.
C'était hier soir, peu après 21h, sur la base française de Kumanovo en Macédoine. Après 4 jours d'âpres discussions entre officiers de l'OTAN et de l'armée fédérale yougoslave, le général britannique Michael Jackson a annoncé que l'accord de paix avait été signé, mettant fin...
Aux frontières de l'Europe, dans les Balkans, la guerre bat son plein avec une opération militaire lancée par l'OTAN contre la Serbie, suite au massacre contre des Albanais du Kosovo. Le jour même des élections, un accord de paix est signé entre les forces de l'OTAN et l'armée serbe yougoslave de Milosevic. contexte de guerre aux frontières de l'Europe, réforme électorale et un chiffon rouge, l'euro. Ça vous rappelle quelque chose ?
Toute ressemblance avec des faits actuels similaires n'est pas fortuite.
En résumé, l'abstention massive s'expliquerait donc par une nouvelle pratique électorale qui crée la confusion chez les électeurs et les électrices, des électeurs anti-euro qui se déplacent en majorité, même si le débat n'a pas encore eu lieu, la perception d'une Europe corruptible, dont on perd le contrôle, et une couverture médiatique faible due aux récents événements au Kosovo. Il me semble pourtant que les élections européennes de 1999 marquent un tournant et le déclin irrémédiable du sentiment européen chez les Britanniques. Et que les raisons de cette abstention sont plus profondes.
But you know, we've spent an inordinate amount of time listening to an argument between the two losers, a falling out of friends. What is absolutely clear tonight is that the Conservatives have won this election.
À écouter la soirée électorale de la BBC de ce dimanche 13 juin, je suis surprise par la nonchalance des personnalités politiques invitées sur le plateau, et particulièrement du représentant du Parti conservateur qui se gargarise de sortir vainqueur de ces élections. Peut-on être satisfait de gagner une élection sans électeur ? Qu'est-ce que cela dit d'un parti politique ? Que de se réjouir d'un score qui ne prend pas en compte les abstentionnistes. Quelle est la légitimité d'une élection sans électeurs ?
Les personnes qui ne vont pas voter sont probablement soit indifférentes,
Brendan Donnelly,
ce qui est tout à fait normal, soit elles doutent de toute façon de la légitimité de l'institution.
Ancien eurodéputé conservateur.
Les personnes qui ne veulent pas renforcer la légitimité du Parlement européen ont la possibilité de ne pas voter. En se disant qu'en l'ignorant suffisamment, il disparaîtra. Ou qu'il ne vous incommodera pas, qu'il ne vous gênera pas. Je pense donc qu'il s'agit de l'œuf ou la poule, d'un cercle vicieux ou de tout autre nom que vous voudrez bien lui donner. Vous obtenez une légitimité. Dans certains cas, en empiétant sur la vie des gens plus immédiatement que ne le fait le Parlement européen.
C'est très déprimant de voir un taux de participation aussi bas.
En 1999, Jean Lambert n'est plus une simple militante écologiste. Elle est candidate aux élections européennes à Londres pour le Parti vert anglais. Et cette année, la réforme électorale joue en sa faveur. Elle gagne un siège au Parlement européen.
C'est très déprimant de voir un taux de participation aussi bas. Parce que vous êtes élu dans une institution puissante, puissante en termes de ce qui se passe dans votre propre pays, certainement puissante aussi en termes de ce qui se passe au niveau mondial. Elle a un potentiel d'impact énorme sur les gens. Et pourtant, il y a toujours ce manque de connexion et de compréhension à ce sujet. Et oui, d'accord, c'était merveilleux de gagner un siège. Et j'aurais été parfaitement heureuse de gagner un siège avec un taux de participation de 75%. Je ne sais pas si ça se serait produit de cette manière. Les mathématiques électorales sont une créature vraiment étrange. Mais c'est vrai que c'était génial d'être élu. Vous pouviez dire aux gens que leur vote avait compté. Je me souviens d'un monsieur qui est venu me voir en larmes et il m'a dit « C'est la première fois que je vote pour quelqu'un qui a gagné. » Et c'était un vieux monsieur. Pour certains, c'était donc incroyable que ça ait eu cet effet. On se dit alors, super, la prochaine fois, amenez vos amis et j'espère qu'ils voteront aussi pour moi ou pour mon parti. Mais ce manque de connexion, je pense, est une réelle préoccupation. Et c'est une réelle préoccupation parce qu'elle rend les institutions plus vulnérables. Et dans une certaine mesure, ça retire la légitimité démocratique. Ça s'applique à toutes les élections où le taux de participation est faible. Vous voulez que les gens se sentent impliqués dans la politique. Vous voulez que les gens sentent qu'il y a une connexion, qu'ils veulent au moins essayer d'avoir un impact sur ce qui leur est proposé et sur ce qui va leur arriver. Et que c'est pas seulement le niveau national qui compte, mais aussi le niveau local. Et c'est là que se prennent beaucoup de décisions. Et c'est aussi le niveau européen qui compte aujourd'hui. Tout ça fait partie d'une vision démocratique d'ensemble.
Thank you. En 1999, la campagne des Tories est menée par William Hague, alors chef de l'opposition conservateur. Et son message est simple. « In Europe, but not run by Europe », qu'on pourrait traduire par « En Europe, mais pas dirigé par l'Europe ». Ou « The pound is safe with the Conservative Party ». Le pound est en sécurité avec le parti conservateur. Encore une fois, toute ressemblance avec des faits passés n'est pas fortuite. C'est la première fois que les conservateurs mènent une campagne aussi eurosceptique. C'est pour cette raison d'ailleurs que Brendan Donnelly, eurodéputé conservateur, crée un parti alternatif, The Pro-Euro Conservative Party. Pour lui, il faut défendre le projet européen. Le problème, c'est qu'à l'époque, il ne croit pas à la dangerosité des slogans simplistes et réducteurs de son ancien parti. Pour Brendan Donnelly, utiliser l'euro pour faire peur aux Britanniques est complètement absurde.
Je ne pense pas que ce soit l'euro le problème. Je pense que c'est l'Europe. La campagne des conservateurs contre l'euro a été inefficace, car on savait que le Parti travailliste, qui était au gouvernement et qui allait probablement le rester, allait organiser un référendum avant l'introduction de l'euro. Les conservateurs en ont donc été réduits à dire que le référendum serait manipulé d'une manière ou d'une autre. Je me souviens qu'en 1999, lors d'une interview à la radio, on a demandé à William Hague « Comment pensez-vous qu'il sera possible de manipuler le référendum ?» Il a répondu que la question pourrait être manipulée. Et le journaliste de répondre « Je suis enclin à voter contre l'adhésion à l'euro, mais pouvez-vous me donner un exemple de formulation d'une question de référendum qui pourrait m'induire en erreur et me faire voter en faveur de l'euro alors que j'y suis opposé ?» Et bien sûr, il n'a pas pu répondre. Et ce fut pour lui un moment embarrassant de la campagne.
Les pro-européens semblent toujours enclins à penser que les électeurs sont raisonnables et raisonnés, qu'ils sont capables de discerner que ce débat, et donc ce slogan, n'a pas lieu d'être. Et pourtant, quand on vous rabâche toute la journée à la télévision, aux abribus ou sur des panneaux publicitaires « Take back control », vous finissez par ingérer cette pensée, véridique ou non. C'est peut-être là une des clés de compréhension de l'abstention massive des électeurs et des électrices. Ce sont ceux qui sont passionnément contre qui votent. Les autres s'abstiennent. C'est d'ailleurs en 1999 que le UKIP, pour UK Independence Party, et son leader Nigel Farage font leur apparition et remportent eux aussi leur premier siège au Parlement européen sur la base d'un seul et unique enjeu, faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne.
Nigel Farage, je pense, ne croyait probablement pas qu'il serait en mesure de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016. Vous vous souvenez que le soir même, alors qu'il pensait, ou semblait penser qu'il avait perdu, il a déclaré, de manière très ironique, « Un vote 52-48 pour rester dans l'Union européenne serait une affaire inachevée ». Il a donc toujours eu ce but à long terme, pas nécessairement un plan, mais un objectif. Et il considérait que la progression vers cet objectif était quelque chose qu'il ne devait jamais abandonner. Et c'est tant mieux pour lui. J'aurais vraiment aimé que les pro-européens de la droite de l'échiquier politique aient la même détermination.
The elections of 99, where you saw the UK Independence Party elected for the first time, up to Brexit.
Je pense que ce mouvement, depuis les élections de 1999, où le UKIP a été élu pour la première fois jusqu'au Brexit, peut être considéré comme un véritable courant. Et l'une des choses que l'on peut voir très clairement, c'est que pour ceux qui ont été élus du côté de l'UKIP, leur unique travail consistait à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. C'était leur travail. Ils n'étaient pas engagés dans une quelconque législation, ils n'allaient jamais s'asseoir dans un groupe parlementaire pour négocier les petits caractères d'une éventuelle révision de la directive sur le temps de travail, un dossier sur lequel j'ai travaillé. Ils n'ont jamais eu l'intention de le faire. Ils se sont concentrés sur des messages simples, des messages négatifs. Toutes les informations gagnées auxquelles ils ont eu accès pour informer les gens sur le travail qu'ils effectuaient au niveau du Parlement européen visaient à défendre le Royaume-Uni de cette Union européenne qui englobait. Toute autre personne élue au Parlement européen était plus ou moins impliquée d'une manière ou d'une autre dans le travail parlementaire, dans ce qui se passait. Par conséquent, aucun d'entre nous n'a vraiment considéré que son travail consistait à défendre l'Union européenne et à s'opposer au UKIP dans cette bataille. Et ce fut une grosse erreur. C'était une très grosse erreur, parce que je pense que même si certains d'entre nous, mon propre parti, peuvent être très critiques à l'égard de certains aspects de l'Union européenne, eh bien, nous critiquons souvent sans expliquer pourquoi il est important que les choses s'améliorent, pourquoi ça a changé, pourquoi c'est important, pourquoi l'Union européenne est importante. Et donc, ce changement est important pour l'Union européenne.
C'est la clé de lecture que j'aimerais vous proposer. Il n'y a personne pour défendre l'Europe. Personne pour expliquer, avec la même détermination et le même acharnement, ce qu'est l'Union européenne. Une anecdote que me relate Brendan Donnelly est assez éloquente.
L'idée largement répandue dans ce pays était que le Parlement européen n'avait aucun pouvoir. Cela ne valait pas la peine de voter pour lui. De plus, les eurosceptiques avaient le sentiment que voter pour le Parlement européen lui donnerait une légitimité qu'il ne méritait pas. Cela a toujours été un facteur important dans ce pays. Mais je pense aussi que la question de ne pas élire un gouvernement ou une administration est importante dans ce pays. Parce que je pense que pour beaucoup de gens, l'attrait du système de scrutin uninominal majoritaire est qu'on leur demande tous les ans ou tous les quatre ans « Qui voulez-vous pour vous gouverner ?» Ils sont alors dérangés dans la mesure où ils doivent marcher le long de la route et voter. Puis, pendant quatre ans, ils peuvent l'oublier. Puis, quelques semaines avant les prochaines élections, ils se remettent à lire les journaux comme ils ne le feraient pas normalement. Je pense que le manque d'intérêt pour la politique est très prononcé dans ce pays. Et si vous ne pouvez pas voir qu'il y aura un gouvernement, une administration issue de votre vote, cela décourage fortement de nombreux électeurs dans ce pays de se rendre aux urnes. Une chose amusante m'est arrivée en 1999. J'ai croisé un ancien collègue du ministère des Affaires étrangères et je lui ai demandé s'il allait voter. Il m'a répondu que non, que le Parlement européen n'avait aucun pouvoir. Je lui ai parlé des pouvoirs du Parlement et il m'a répondu que c'était très intéressant, mais qu'il ne voterait toujours pas. Le Parlement a manifestement plus de pouvoir qu'il ne devrait en avoir et il ne veut pas l'encourager. Il n'y avait donc aucune possibilité de gagner dans un tel contexte.
Vous l'avez entendu, Brendan Donnelly n'a rien d'un révolutionnaire enragé. Et pourtant, il en fallait du courage politique à l'époque pour faire entendre une voix dissonante au sein du Parti conservateur et plus largement des médias et de la société. Car électoralement, ce n'est pas porteur et d'ailleurs, il a perdu son siège. À bien y regarder, rares sont les leaders politiques qui parlent positivement de l'Europe. Quelle est la responsabilité d'un homme politique quand il utilise des slogans tels que « In Europe, but not run by Europe ».
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un tournant. mais je pense que la réticence des forces pro-européennes encore influentes au sein du Parti conservateur à faire quoi que ce soit qui puisse être considéré comme une prise de position a été significative. Je pense qu'il y a eu des moments plus tard où elles auraient pu prendre position, mais leur refus de prendre une quelconque position en 1999 était un présage, une prédiction de la façon dont elles se sont comportées pendant les 15 années suivantes. Et je suis très critique à l'égard de ces personnes, comme Clark, Heseltine, Howe, Britain, qui ont trouvé inopportun de se battre pour leurs valeurs européennes au sein du Parti conservateur. Ils pensaient que les événements iraient inévitablement dans leur sens et qu'il leur suffisait de rester dans le Parti conservateur pour que tout aille bien. Je trouve ironique certains des discours que nous entendons, notamment de la part de Lord Heseltine en ce moment, sur l'horreur du Brexit. Il porte une responsabilité dans le Brexit, parce qu'il était prêt à acquiescer. Pas de gaieté de cœur, mais il a tout de même acquiescé et n'a pas fait grand-chose pour empêcher le Parti conservateur de devenir le principal foyer de l'anti-européanisme dans ce pays.
Avec le recul, si j'avais pu faire les choses différemment, je pense que j'aurais dû être plus audacieuse pour expliquer pourquoi l'Union européenne est importante et pour plaider en faveur de cette organisation qui a un tel potentiel en termes positifs. Et aussi pour plaider en faveur du travail coopératif, de la mise en commun, de la souveraineté partagée, que cela ne vous affaiblit pas en tant que nation, qu'au contraire, cela peut renforcer votre impact, cela peut renforcer les valeurs que vous dites avoir et que vous voulez mettre en avant. Je pense donc que passer un peu plus de temps sur ce sujet aurait été du temps bien utilisé d'un point de vue personnel. D'un autre côté, je suis très satisfaite de la plupart des autres travaux que j'ai effectués, qu'il s'agisse du droit d'asile, de la liberté de circulation, des droits des travailleurs ou de la législation sur l'égalité. Je ne voudrais pas changer ça. Je ne voudrais pas que ça change. Il y a là une leçon à tirer sur le fait d'assumer politiquement la tâche d'expliquer pourquoi l'Union européenne est importante et de consacrer une partie de son temps à ça, et pas seulement à la législation.
Ce qui nous amène à la place et au rôle des médias. Si on revient au début de cet épisode, une des raisons invoquées pour la faible participation des Britanniques à ces élections était la faible couverture médiatique.
This is pre-social media, really.
C'était avant les médias sociaux. Et si les médias ne s'intéressent pas à vous, c'est parce que c'est l'Europe. Et qu'ils ne comprennent pas vraiment l'Europe. Parce que ce qu'ils comprennent, c'est Westminster avec ses ragots et ses représentants. Mais très très peu d'entre eux ont montré un intérêt particulier pour le sujet européen. Et je dois dire que si vous regardez le rôle de la BBC, elle avait l'habitude de faire une seule émission par semaine sur le Parlement européen, ce qui avait le mérite de rassembler des gens de différents groupes politiques et de différents pays. Cette émission était diffusée sur la chaîne Westminster de BBC 24, je crois. Ils ne l'ont jamais diffusée sur une chaîne principale de la BBC ici. Donc, même si vous étiez intéressé, où pouviez-vous trouver quoi que ce soit? Et s'ils voulaient parler de l'Europe, 9 fois sur 10, les journalistes s'adressaient à quelqu'un à Westminster, qui, bon, permettez-moi de trouver la bonne formulation, n'était peut-être pas tout à fait à jour de ce qui se passait, et pas vraiment au fait du fonctionnement du Parlement européen. Il était donc très difficile de commencer à construire une quelconque présence médiatique en tant que membre du Parlement européen. Je me souviens que même après le référendum, alors que j'assistais à un événement consacré à ce qui allait se passer pour les ressortissants de l'UE au Royaume-Uni, un homme qui avait été impliqué dans la politique au niveau local pendant des décennies m'a dit « Oh, vous avez été membre du Parlement ? Quand avez-vous été nommé ?» Je lui ai répondu que j'avais été élu à 4 reprises lors d'élections nationales au cours des 20 dernières années. Il m'a répondu « Ah oui, j'avais oublié que ça avait changé. » Et c'est quelqu'un qui est politiquement actif. L'Union européenne n'est donc pas vraiment ancrée dans la politique britannique, comme faisant partie de la vie politique, comme faisant partie de la prise de décision qui affecte la vie des gens et qui a un réel impact. Cela a toujours été quelque chose d'un peu secondaire, un intérêt minoritaire. Certains médias britanniques sont également historiquement très hostiles à l'Europe. C'est même pas de l'euroscepticisme, c'est de l'hostilité à l'égard de l'Europe. Vous avez les journaux qui appartiennent au groupe Murdoch, et il y a un long passif, car Murdoch était très inquiet de savoir s'il y aurait des contrôles venant de l'Union européenne sur la propriété des médias et ainsi de suite. Il n'était donc pas du tout fan de l'Union européenne. Je ne me souviens plus exactement, mais il y avait une petite histoire qui disait « S'il appelle Downing Street, il parle au Premier ministre. S'il appelle l'Europe, personne ne répond. » Il y a donc cet aspect dans la presse britannique. Et je veux dire, si on regarde, encore une fois, il faut que je trouve la bonne formule, l'histoire journalistique peu glorieuse de Boris Johnson, qui a été correspondant à Bruxelles et qui a inventé des histoires sur l'Union européenne, parce qu'il le pouvait et qu'il trouvait ça drôle. Et puis les gens ont commencé à croire ces histoires. Ainsi, la maison de l'Europe, les commissaires et le Parlement basés à Londres devaient passer beaucoup de temps à expliquer qu'en fait, non, il n'y a pas de règlement européen sur la forme des bananes. Vous savez ce genre d'histoire parce que quelqu'un a pensé que c'était drôle et que personne n'en savait assez pour le rappeler à l'ordre. Et c'était le travail de personne de vraiment le challenger sur ce sujet. Je connais des membres du Parlement européen qui ont fait l'objet d'articles sur la législation sur laquelle ils travaillaient dans la presse britannique. Et ils ont essayé d'obtenir un droit de réponse à ce sujet. Parfois, les journaux faisaient volte-face et disaient que ce que vous aviez à dire n'intéressait personne. Ce qu'ils voulaient dire, c'est moi, en tant que journaliste ou en tant que rédacteur en chef, je ne suis pas intéressé. Et par conséquent, je ne dirai pas aux gens qu'il y a en fait une autre version de cette histoire. Je veux dire que le rôle d'un journalisme médiocre, je pense, dans l'ensemble des relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne, est une leçon qui mérite d'être retenue.
Si on ne comprend pas l'Union européenne, comment peut-on en parler avec intérêt ? Qu'on soit pour ou contre les politiques européennes, elles ont, quoi qu'on en pense, un impact sur notre quotidien. Et ce qu'on peut entendre en filigrane, c'est qu'au contraire des discours nationalistes qui valorisent la force, la puissance, la confrontation, et on sait que les médias aiment les clashs, l'Europe prône le compromis, la recherche de consensus et la cohésion.
Il y a aussi, je pense, ce que je pourrais considérer comme une sorte d'exception britannique. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais je pense qu'il y a des éléments qui sont liés au fait d'avoir eu un empire, à notre histoire de la Seconde Guerre mondiale, et au fait aussi que nous sommes une nation insulaire. Tous ces éléments se combinent pour donner aux Britanniques le sentiment qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres, bien que je sois consciente qu'il y a d'autres pays où les gens pensent que nous ne sommes pas tout à fait comme les autres, à cause de notre passé. Et je pense aussi, et on commence à le voir, l'Union européenne était toujours décrite en termes de ce que nous y perdions, jamais de ce que nous y gagnions.
The European Union always been described in terms of what we were losing, never what we were gaining.
je tenterai même un parallèle entre la vision d'une société patriarcale, dirigée par un mâle dominant, sûr de lui, versus une société féministe, supranationale et empathique.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je considère l'Union européenne comme une forme d'organisation politique moralement supérieure à la forme traditionnelle d'organisation politique de l'État-nation. Parce que les États-nations ont besoin, très souvent, en particulier les plus grands, d'un renforcement de la violence dirigée contre d'autres personnes afin de réaffirmer leurs identités nationales.
Bon, je m'emballe. Mais elle est peut-être là, la leçon à retenir de ces élections. Le diable est sorti de sa boîte. Pour conclure cet épisode, j'aimerais revenir et retenir quelques idées qui me semblent primordiales pour bien comprendre les élections à venir. L'idée numéro 1, l'abstention massive des électeurs aux élections européennes, si elle ne remet pas en cause la légitimité de celle-ci, du moins pas pour le moment, ouvre la voie X et la voie E aux extrêmes. Et les hommes politiques, plutôt que d'accuser les institutions ou une réforme électorale, devraient s'interroger sur leurs propres responsabilités. L'idée numéro 2, le projet européen doit être défendu, avec la même vigueur et la même détermination que ses détracteurs. Car qu'on vote ou non, ce sont eux, sinon, qui prendront le pouvoir. Idée numéro 3, défendre le projet européen demande du temps, demande du courage politique et une compréhension des enjeux. Idée numéro 4, les médias ont un rôle à jouer pour faire de l'Europe un sujet à forte audience. Si on réussit avec l'écologie et le féminisme, il n'y a pas de raison. Idée numéro 5, apprenons des leçons du passé pour promouvoir un modèle de société qui valorise le compromis, la discussion, la patience et le temps long.
Si vous avez un intérêt pour la liberté, les droits de l'homme, l'environnement, la démocratie, si vous ne votez pas aux élections européennes, ne vous étonnez pas de ce qui pourrait vous tomber dessus.
Alors, pourquoi irez-vous voter le 9 juin 2024 ? Merci à Jean Lambert et Brendan Donnelly d'avoir partagé leurs souvenirs de cette élection de 1999. Et merci à la Maison de l'Europe à Londres pour avoir accueilli cet entretien. Merci à Lou Lefebvre pour le doublage de la voix de Jean Lambert et à Gary Fossirena pour celle de Brendan Donnelly. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé par Laetitia Chaban. Le montage et mixage est d'Axel Legroux. La musique originale a été composée par Arnaud Paskiewicz. Europe et Sentiments est un podcast indépendant. Cette nouvelle saison a été rendue possible grâce au soutien du Parlement européen et de la Fondation Hippocrène. Pour connaître tous les événements de cette campagne européenne, nous vous invitons à vous rendre sur le site ensemble.eu. Et pour vous tenir informé de la sortie de nos prochains épisodes, participer à nos événements ou soutenir notre projet, rendez-vous sur le site europeetsentiments.com ou sur sa page Instagram. À la semaine prochaine!